Postface. Avant même d'avoir terminé la lecture des carnets de Jack Perry, j'ai passé un coup de fil désespéré à M. Richard A. Durbage, Jr., à Lutherville Timonium, Maryland, le fils de la dame à qui le paquet contenant les carnets et l'appareil photo avait été envoyé par erreur presque 20 ans plus tôt, en 1992. M. Durbage s'est montré très aimable et désireux de m'aider par téléphone, même si je sentais que je le détournais d'un important programme télé, un match de foot, m'a-t-il semblé entendre en fond sonore. Monsieur Durbage Jr. se souvenait-il d'un appareil photo qui se serait trouvé dans le colis malencontreusement expédié à sa mère Lydia, la petite nièce de Jack Perry? Lui ai-je demandé d'une voix presque tremblante. Il devait être avec les carnets, et il m'était destiné lui aussi, ai-je ajouté, percevant la note possessive, presque obsessionnelle, dans ma propre voix. Je ne dis pas à ce monsieur du Maryland que l'appareil photo envoyé à sa mère révélerait sans doute au monde si Mallory et Irvine avaient atteint le sommet de l'Everest en juin 1924. Monsieur Durbage Jr. se souvenait en effet de l'appareil photo, rangé dans le carton avec les carnets à la cave, un vieux truc semblant dater du 19e siècle, m'a-t-il dit. Mais il était sûr de ne plus l'avoir en sa possession. Il avait quitté cette maison cette année, en 2011, et sa fille et son gendre avaient jeté beaucoup de bazar pour préparer son emménagement dans un logement plus petit. Cependant, M. Durbage Jr. était presque certain que sa mère, Lydia Durbage, avait vendu l'appareil à l'un de ses vide-greniers hebdomadaires au début des années 1990. Il se souvenait très bien que le carton contenait aussi un vieux revolver, pas chargé, Dieu merci, que sa mère avait apporté en personne au commissariat de Lutherville Timonium pour que les policiers la débarrassent de cet affreux objet. Oui, plus il y pensait, plus M. Durbage Jr. était sûr que sa mère avait vendu le vieil appareil photo cet été 1992, quand le colis était arrivé de la maison de retraite du Colorado. Il n'avait aucune idée de la personne qu'il avait acheté à ce vide-grenier, même s'il croyait se souvenir que sa mère en avait tiré $2. Pouvait-il m'aider en quoi que ce soit d'autre? Non, ai-je dit, merci. Et j'ai raccroché. Quelques recherches sur les dates de ses expéditions en Alaska, au Nanda Devi et au K2, m'ont appris que l'ami alpiniste de Jake, le médecin qu'il surnomme Charlie, devait être le docteur Charles Houston, un célèbre ascensionniste américain de 11 ans son cadet, mort en septembre 2009. Houston avait été l'un des quatre hommes sauvés par la manœuvre d'assurage désormais légendaire de Pete Shunning en 1953, après une chute sur une pente du K2. Ce relais est magnifiquement décrit dans K2 Montagne sans pitié, le livre devenu un classique, que Houston et son camarade Robert H. Bates ont consacré à cette expédition. Cet ouvrage mis à part, Houston a surtout écrit et publié des manuels médicaux portant sur les effets de l'hypoxie à haute altitude sur le corps et l'esprit humain. Bien que je sois très doué pour obtenir du gouvernement des renseignements en vertu de la loi sur la liberté d'information, c'est ainsi que j'ai réussi à faire ouvrir des archives concernant les exploits d'Ernest Hemingway dans son rôle d'espion à Cuba pendant la guerre pour mon roman « Les forbans de Cuba », je n'ai pas retrouvé ne serait-ce qu'une page d'un dossier officiel expurgé relatif aux années de service de Jack Perry dans l'OSS pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale. S'il m'est très difficile d'imaginer le vieux monsieur dans la peau d'un assassin, je ne doute pas une seconde qu'il ait été là où il a prétendu être et fait ce qu'il a affirmé avoir fait. Enfin, cet automne, alors que j'avais commencé à dactylographier et à noter les nombreux carnets de Jake en vue d'une possible publication, même si peu d'éditeurs offriraient un livre de cette taille, de surcroît écrit par un amateur, et que je n'étais pas sûr de réussir à convaincre mon agent de le lire en entier, j'ai décidé de retourner à Delta pour voir la tombe de Jake. Jacob Perry avait demandé à être enterré non pas dans le cimetière de Delta, mais dans celui de Ridgeway, à 77 km au sud, une bourgade de 924 âmes au recensement de 2010, dans le comté d'Ouray, Colorado. Quand je suis arrivé dans ce petit cimetière perché en haut d'une colline, en ce jour froid et clair de la fin d'automne, j'ai compris pourquoi il l'avait choisi. Du cimetière ce jour-là, on voyait le mont Sneffels et tous les hauts sommets de la chaîne du même nom, dont Mears Peak qui dressait sa masse blanche sur la toile bleue du ciel, et derrière les dernières feuilles jaunies des trembles, les spectaculaires monts San Juan, le pic Uncompahgre et l'ensemble de son parc naturel à l'ouest, La route d'Owl Creek Pass avec ses dalles verticales de dolomite et ses arêtes, la montagne T-Kettle et sa face nord d'une raideur terrifiante, et jusqu'à l'impressionnant Chimney Rock. Outre l'Uncompa Gris et le mont Sneffels, on distinguait divers autres sommets de plus de 4000 mètres, les monts Wilson, El Diente, Eolus, Windham Peak, Sunshine Peak, Recloud Peak. Un spectacle incroyable. Je ne suis pas croyant, mais j'avais apporté une bouteille de scotch Macallan Single Malt de 25 ans d'âge et deux verres. J'ai rempli les deux verres, j'en ai posé un sur la petite pierre tombale disant seulement Jacob William Perry, 2 avril 1902, 28 mai 1992, et j'ai levé l'autre. Il y a très longtemps, pour m'amuser, j'avais appris par cœur quelques vers de l'Énéide de Virgile. Levant mon verre en direction des cimes des monts San Juan, éclairé par les derniers rayons du soleil de cette journée d'automne, j'ai récité ces vers qui me restaient en mémoire. Tant que les fleuves couleront vers la mer, que les ombres effleureront les pentes des montagnes et que les étoiles illumineront la voûte céleste, ta gloire, ton nom et tes louanges vivront. Et j'ai bu mon whisky d'un trait, laissant la bouteille et l'autre verre sur la pierre tombale. J'ai repris la route et me suis éloigné des hauts sommets enneigés pour rentrer chez moi. Colorado, mai 2011, septembre 2012. Vous venez d'écouter L'Abominable de Dan Simmons, traduit de l'anglais États-Unis par Cécile Arnaud, lu par Mathieu Dahan. Une production Audible Studio.